Allô?
Oui, bon, voilà. Okay. Donc, je disais que je suis absolument ravi d'être parmi vous ce matin. J'ai, je crois, ma collègue de Rennes, Zoé Héritage, me disait que j'avais l'air un peu fatigué. Je crois que c'est le cas. Hier, c'était un événement extrêmement important pour nous, étant donné que je donnais la leçon inaugurale pour la chaire qui a été créée conjointement par l'École des hautes études en santé publique et l'IMPES. L'IMPES qui finance pour 3 ans cette chaire. Je tiens à. Est-ce que vous voulez, ça va me prendre quelqu'un? Voilà. Donc, premièrement, je veux remercier donc la Société française. Alors, donc, je veux remercier de m'avoir invité ici. Je dois dire que quand on me présente comme quelqu'un qui va donner le point de vue du Québec, ça me gêne un peu, je dois dire, parce que ça fait déjà 5 ans que j'ai quitté le Québec, mais j'ai été formé là. Donc, j'ai encore des contacts fréquents. Mais disons que ma vision de la promotion de la santé a évolué depuis. Et donc, c'est ça. Donc, je pense qu'il ne faut plus me prendre comme un représentant, un digne représentant de la perspective québécoise de la promotion de la santé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais passer, vous pouvez même passer à la prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce que j'ai pensé aujourd'hui, évidemment, le titre structure ma présentation, c'est que j'aimerais passer à travers un cours historique de la santé publique. Alors, j'ai vu des gens qui étaient à ma leçon inaugurale hier soir. Je m'excuse, je vais faire plus court. Donc, je vais résumer, mais je crois que c'est important de passer à travers, d'avoir cette vision un peu probablement différente l'histoire de la santé publique. Je dis que c'est une histoire de la santé publique et non pas l'histoire de la santé publique, étant donné que c'est vraiment une vision très personnelle. S'il y a des historiens parmi vous, s'il vous plaît, ne me lancez pas des tomates. Je sais que ma vision de l'histoire est extrêmement, disons, grossière, mais elle m'est utile personnellement pour voir un peu d'où on vient et où on s'en va. Donc, je vais passer à travers ces étapes-là, ces phases-là, rapidement. Prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le mouvement hygiéniste, et je sais que je vais rien vous apprendre, mais ce qu'il faut retenir de ce mouvement-là, c'est des gens qui n'avaient pas une compréhension précise de ce qui se passait au niveau sanitaire dans différentes populations à travers l'Europe. On a donc des épidémies, on a des classes de travail, des travailleurs qui vivent dans ces villes industrielles, qui meurent à des âges absolument effarants, à 30 ans. Donc, des conditions de vie extrêmement difficiles. Est-ce que le mouvement hygiéniste apporte? C'est en fait la fin du fatalisme face à la mort, face à la maladie. Et ça, c'est vraiment ce qui distingue la santé publique moderne de ce qui l'avait précédée. Avant, on s'agenouillait et on priait. On disait que c'était la volonté divine. On faisait des actions, évidemment. Les gens vont me dire, oui, mais les Romains, oui, d'accord, absolument. Mais reste que, si on regarde pour l'Europe, avant la santé publique moderne, donc ce moment où on a dit il est possible d'avoir une action planifiée, une action guidée par des objectifs et des stratégies, ben, à partir de ce moment-là, on a cessé d'être aussi fataliste face à la mort, aux maladies et tout ça. Donc, le mouvement hygiéniste, comme vous le savez, sa contribution, c'est de dire: on ne sait pas pourquoi les gens meurent du choléra. On ne sait pas d'où vient le choléra. On va vite l'apprendre, évidemment. Mais ce qu'on sait, c'est que les travailleurs qui sont dans des environnements, disons, insalubres, meurent beaucoup plus vite que ceux qui sont dans des environnements plus salubres. Donc, on va avoir une action sur l'environnement. Et ça, je crois qu'il faut se rappeler, parce que je vais revenir là-dessus. C'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la lutte bactériologique, donc la révolution pasteurienne, évidemment, ce que ça a apporté, évidemment, des bénéfices absolument incroyables. On peut enfin cibler précisément les vecteurs des maladies. Mais le problème, est-ce que ça, il y a deux impacts. Et en fait, quand on a écouté l'introduction qui a été donnée, on vit encore les impacts de cette révolution-là en termes du déplacement de la santé publique vers un modèle biomédical. Évidemment, la microbiologie et les autres sciences de la nature vont donner des explications en béton sur les causes de la maladie, sur les agents microbiaux et tout ça, bactériens. Et donc, on va se retrouver avec une vision biomédicale de la santé publique. Et d'autre part, ce que ça va amener, c'est un déplacement du lieu où se fait la santé publique. Donc, on va se retrouver avec une santé publique qui se fait en milieu clinique, par des cliniciens. Évidemment, et là, je dois le préciser tout de suite, quand on regarde les phases de la santé publique, ce n'est pas des phases qui s'excluent. C'est on construit, chaque phase est une contribution dans l'histoire de la santé publique. Donc, le mouvement hygiéniste est encore ici aujourd'hui. Il est encore vivant. La révolution pasteurienne, évidemment, est encore vivante. Et les autres étapes comme ça. Donc, ce ne sont pas des étapes qui s'excluent. Évidemment, c'est difficile souvent de les pointer dans le temps. Mais avec 1861, avec la théorie sur les germes de Pasteur, on va donc assister à cette biomédicalisation de la santé publique et ce déplacement donc de l'intervention dans le cadre clinique, tout en continuant à faire des interventions sanitaires, s'il vous plaît. Voilà. Donc, avec la transition épidémiologique, évidemment, donc on va se retrouver à un moment où les maladies chroniques vont dominer le portrait sanitaire de la plupart des populations occidentales. Ce qu'il faut retenir pour moi, c'est l'idée que, justement, on va voir que la réaction face à l'identification de certains de ces comportements de santé-là va être, évidemment, de se baser sur les progrès des sciences médicales et dire, donc, si on peut vacciner contre contre tel ou tel agent infectieux, on peut donc vacciner les gens contre des comportements en leur donnant une éducation appropriée. Donc, l'information devient cette forme de vaccination. Évidemment, et là, on va passer... juste avant de dire, ce qui est frappant, quand on relit cet article-là de Richard Dahl et Bradford Hill, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il nous rappelle qu'avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait à peu près pas de cancer du poumon. Il y avait très, très peu. D'ailleurs, il y a un témoignage que je trouve absolument incroyable. On voit un médecin de l'University of Washington en 1919. Il est étudiant à la faculté de médecine et qui est convoqué à la salle d'opération. On lui dit, écoute, il y a un cancer du poumon sur la table d'opération. Il faut que tu vois ça parce que il y a des chances sont que tu n'en reverras plus jamais. Et en fait, ça a été le cas pendant 17 ans. Donc, de 1919, pendant les 17 années suivantes, il n'a pas vu un autre cancer du poumon. Et là, il en a vu un. Et là, il en a vu 8 dans les 6 mois qui ont suivi. Tous des gens qui étaient revenus de la Première Guerre mondiale et qui avaient donc commencé à fumer. C'est pas de la nouvelle information, mais c'est, je trouve, intéressant. Voilà, s'il vous plaît. Donc, l'information, évidemment, toutes ces campagnes sur la question de ce modèle extrêmement simpliste qui dit que l'information va apporter des changements de comportement, on va très vite voir les limites de ça. Et entre autres, on va voir qu'à l'intérieur, que dans le cadre du cabinet du médecin, par exemple, que ce n'est pas suffisant. Donc, le réflexe qu'on va avoir, c'est de dire le message doit être communiqué à travers différents milieux. S'il vous plaît, prochaine. Elle vient un mauvais moment. Bon, alors, petite parenthèse, désolé pour l'ordre des... Alors, petite parenthèse, pendant les années 70, donc on a cette montée, on a un retour, on commence à voir... En parallèle à la montée des maladies chroniques, évidemment, les coûts exorbitants qu'elles font subir au système de soins, on va voir donc cette préoccupation pour les coûts va donner lieu, évidemment, au rapport Lalonde que je suis convaincu que vous connaissez tous, et donc qui est le premier rapport officiel qu'un gouvernement avait, dans lequel un gouvernement avait formulé clairement que c'est pas juste le cadre clinique qui est en lien avec la santé de la population. Qu'en fait, la clinique a peu, sa contribution en termes d'amélioration de la santé des populations est minime. Et dans le rapport, évidemment, c'est pas un très bon rapport. Parce que l'accent est surtout mis sur la responsabilité individuelle. Ce qu'on dit dans ce rapport-là, c'est que les Canadiens, ils fument trop, ils mangent mal et ils ne font pas d'exercice. Donc, il faut qu'ils se prennent en main et qu'ils fassent quelque chose. Donc, la responsabilité est mise. Mais on reconnaît quand même le rôle de l'environnement. Donc, après la révolution pasteurienne, on voit ce retour. On dit, oui, mais finalement, il y a peut-être quelque chose à faire en termes d'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on a quand je dis qu'on sort du contexte clinique, du milieu clinique pour les campagnes d'éducation? On a un exemple extrêmement intéressant. Je suis sûr que vous n'avez déjà entendu parler de ces projets qui avaient été financés par le National Institute of Health des États-Unis et qui avaient dans le but en fait de réduire les maladies cardiovasculaires. Donc le gouvernement américain voulait trouver une façon de diminuer ça et avait donc donné de l'argent à différents projets pour qu'ils fassent des essais. Donc qu'ils créent des programmes qui puissent prouver qu'ils sont efficaces. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc fait des programmes où il y avait des villes contrôle et des villes intervention. Donc, donc on a fait ça dans plusieurs programmes et en essayant donc les villes qui étaient visées, ces communautés-là qui étaient visées, de les bombarder de messages, de les bombarder non dans différents milieux aussi. Donc, des programmes extrêmement sophistiqués, extrêmement bien faits, en fait. Au niveau méthodologique, très difficile à contester. Le problème, évidemment, c'est que, comme on ne changeait pas vraiment le milieu, l'environnement, on n'avait pas vraiment d'impact sur l'environnement, ce que ça va prouver, prochaine étape, ce que ça va prouver, et là, ici, les chercheurs qui étaient sur le Pawtucket programme vont devoir avouer leur étude, quand on lit l'étude, c'est la déprime. Hein? C'est vraiment, c'est parce qu'ils avaient mis beaucoup d'argent sur le projet qu'ils ont pu le publier, parce qu'habituellement, les projets qui ne fonctionnent pas, on ne les publie pas. Mais lui, ils ont dit, bon, écoutez, c'est le Pawtucket, il faut publier les données. Ils ne voyaient aucune différence, très, très peu de différence entre les communautés qui avaient été visées par leur programme et celles qui ne l'avaient pas été visées. Et on comprend, par exemple, en tabac, on comprend très bien qu'on peut, avec beaucoup d'efforts, on peut quand même réussir à faire à amener les fumeurs à cesser de fumer. Mais le problème, évidemment, qu'on vise juste les fumeurs, c'est qu'ils sont toujours remplacés et de manière extrêmement enthousiaste par leurs enfants. Donc, on a grosses difficultés à faire quitter les adultes et les enfants, eux, prennent la cigarette de façon très, très facilement. Prochaine. Alors voilà, donc face à ces leçons, face à l'idée que les programmes, même si on a mis énormément d'argent, qu'on a été très très sophistiqué, si on ne touche pas aux environnements, on ne peut pas s'imaginer, en tout cas, dans le cadre des maladies chroniques, n'importe quelle maladie en fait, avoir des impacts significatifs sur la santé des populations. Donc, on va avoir l'émergence de la nouvelle santé publique. Et pour moi, la nouvelle santé publique est ce premier courant. En fait, et ce courant sur lequel la promotion de la santé va s'appuyer. La nouvelle santé publique, ce qu'elle dit tout simplement, c'est qu'il faut aller rejoindre les gens dans différents milieux, à différents niveaux de social, donc communauté, au niveau individuel, communauté, au niveau de l'État, au niveau d'un territoire transnational et tout ça. Donc, il y a une perspective donc, qui est socio-écologique qui dit il y a la santé se crée dans ce rapport que les individus ont avec leur environnement. Et l'autre chose que la nouvelle santé publique dit, c'est pas juste les comportements. Et ça, c'est clair. On sait que même si on se débarrassait de la plupart des facteurs de risque connus, on aurait quand même des différences entre groupes au sein de la société. La promotion de la santé, elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle rajoute à ça, c'est une plateforme d'action, des moyens d'action, et aussi un agenda de justice sociale. Au Canada, on a eu un gros débat qui continue. Parce qu'au début, au gouvernement fédéral, on avait des bureaux de promotion de la santé qui ont fini par être transformés en bureaux de santé des populations. Parce qu'il y avait vraiment une guerre entre ces deux groupes, entre les tenants de la promotion de la santé et ceux qui étaient plus de santé des populations. Et la différence marquée entre les deux est vraiment la question de la justice sociale. Vraiment, pour les promoteurs de santé, il est absolument inacceptable qu'on ait des groupes qui soient toujours laissés de côté, qui n'ont pas la même capacité de gagner des ressources que la santé publique rend disponible. Et il y a la question de la participation des populations, aussi, qui est typique de la promotion de la santé. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, je veux donc aller vers vous donner en fait ma vision de la promotion de la santé. Je ne prétends pas qu'elle est originale, mais étant le titulaire de la chaire promotion de la santé financée par l'IMPES, j'ai eu à y réfléchir ces derniers temps, comme j'y avais jamais réfléchi, je dois dire, même pas depuis quelques années. En fait, j'avais jamais eu à réfléchir autant sur cette question-là. Ce qui est important ici, ce qui est vraiment essentiel de voir ici, parce que la promotion de la santé, on n'est jamais capable de la définir. Hein? Elle est insaisissable. On est là, on parle d'approche, on parle de processus, on parle de fonction des organisations de santé publique, on parle on a différentes façons de définir la chose, mais on ne peut pas vraiment s'entendre sur ce que c'est. Chose certaine, il y a quelque chose qui est en lien avec le processus, pour la simple et bonne raison que la santé est un processus. Donc, si on veut avoir un impact sur la santé, sur une santé qui n'est pas statique, mais bien dynamique, qui est un phénomène dynamique, il faut donc qu'on soit au niveau des processus. Je vais donc, je vais donc me baser sur René Dubos, donc un Français, un microbiologiste, un environnementaliste, un humaniste. Dépendamment qu'on lit le wiki anglophone ou le wiki francophone, c'est comme deux personnes différentes. Mais reste, il semble qu'il y avait beaucoup plusieurs cordes à son arc. La chose qu'il nous apprend, comme je le disais, c'est que, donc, après plusieurs années, il a immigré aux États-Unis, il avait 18 ans, je pense en 1919 ou quelque chose comme ça, et donc il a fait sa carrière aux États-Unis, et à la fin de sa carrière, il s'est mis à réfléchir sur ce qu'est la santé. Et ce qu'il nous apprend, c'est que on a cette vision d'un idéal de santé, qui doit vous rappeler, en fait, la définition de l'OMS de 48, si je ne me trompe pas, donc qui est dans le document fondateur de la quelle année? La Constitution, c'est ça? C'est 48, il me semble.
Non, je crois que c'était
46. 46 peut-être, c'est ça. Bref, dans les années 40. Voilà, donc, dans ce document-là, on parle de la santé comme un état idéal. Et ce que nous dit Dubos, c'est qu'on est complètement à côté. Parce que si on dit qu'il y a une santé idéale, donc c'est la poursuite, la quête de cette santé idéale, mais le problème, c'est que si on regarde comme il faut ce qui se passe, c'est que on se rend compte qu'en fait, l'organisme humain, la pensée humaine, la biologie humaine est toujours en adaptation avec l'environnement. Il n'y a pas d'état statique. Donc, la santé, pour Dubos, est en quelque sorte ce processus d'adaptation constant à l'environnement. Mais le problème avec l'environnement aussi, c'est que l'environnement non plus n'est pas statique, il est dynamique. Donc, nous avons, en tant qu'être biologique et être spirituel, donc entité pensante et entité biologique, nous avons à nous adapter constamment à notre environnement, parce que cet environnement-là est constamment en train de changer. Donc, ça amène à une conclusion qui est un peu déprimante, c'est-à-dire que notre quête pour la santé idéale est vaine. Autrement dit, nous n'arriverons jamais à nous débarrasser de la maladie. Nous n'arriverons jamais... Le cancer, par exemple, plusieurs disent, Est-ce qu'on va vraiment arriver à se débarrasser de cancer alors que c'est quelque chose qui est constamment en train de changer? Donc, je ne sais pas. Mais la chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, en 2007, je crois, on reportait qu'il y avait 1 300 000 morts chaque année dues aux accidents de la route. Il y a 100 ans, il n'y en avait pas autant. Alors, on va, et demain, ça va être autre chose. On va réussir à réduire le nombre d'accidents de la route pour avoir une autre cause de maladie, de cause de décès qui va émerger. Parce que, en tant que société, on aime essayer d'autres choses et on est toujours en train de s'exposer à des nouveaux risques. Donc, tout ça pour faire mon point qui est fort simple finalement. Donc, la santé est un processus dynamique. Ce qui nous amène, s'il vous plaît, à cette fameuse métaphore de l'intervention en amont-aval. Donc, upstream, downstream, métaphore. Donc, ce week-end, j'ai demandé à mon épouse et une de ses amies qui était à la maison, j'ai dit, j'ai besoin de ce dessin pour une illustration pour ma diapo. Et là, ils se sont mis à dessiner des choses extrêmement compliquées. En fait, l'idée, je dois vous expliquer, c'était quoi la commande. J'ai dit, bon, il y a toujours ce type qui est sur le... Vous connaissez la métaphore. Il y a le type qui est sur le bord de la rivière, qui voit quelqu'un descendre en train de se noyer, qui fait des gestes des bras. Alors, le type saute dans la rivière, repêche la personne en train de se noyer, met sur la plage, et là, paf, il y a une autre personne qui arrive, encore en train de se noyer, sort de l'eau encore, et là, ainsi de suite. Donc, c'est évidemment une métaphore du système curatif, qui est toujours en train de sauver des gens qui sont en train de se noyer. Mais qu'est-ce qui se passe en haut? Pourquoi les gens se retrouvent toujours dans cette rivière-là? Mais là, le type est tellement occupé qu'il ne peut pas aller voir en haut de la rivière pour s'occuper de voir s'il n'y a pas peut-être quelqu'un qui pousse les gens dans la rivière. Alors, j'avais demandé à mon épouse, donc une de ses amies, de m'illustrer ça. Ils m'ont fait des dessins extrêmement compliqués. Là, il était vraiment préoccupé par... Moi, je disais, mais bonhomme allumette, incapable de faire ça. C'était trop bas pour eux. Et j'ai demandé à mon artiste en résidence à la maison, qui, elle, tout de suite, a fait ce dessin-là. Et j'ai dit, mais oui, c'est ça exactement. Et là, on voit qu'on a un système de santé qui est extrêmement bien, qui a de bonnes ressources, évidemment, pour sauver, venir en aide. Il y avait son copain, qui lui est français, qui lui, par contre, est arrivé avec un dessin un peu plus simple. Et là, je me suis demandé si les Français, en fait, ici, étant français, ce petit garçon de 7 ans, n'avait pas déjà intégré ce réalisme face au niveau de ressources qu'on peut s'attendre pour un système de soins. Alors, donc, il y a cette métaphore-là. Mais le problème avec cette métaphore-là, c'est qu'elle nous conduit à considérer que la santé est un processus statique. Parce que ça veut dire, donc, qu'il y a des gens qui sont sur le bord de la rivière, donc les gens à risque, et il y en a qui sont loin. Ceux qui sont loin de la rivière, pas de problème, ils sont en santé, ils ne sont pas à risque. Ceux qui sont sur le bord, ils sont à risque. Laissez décider de les reculer du bord de la rivière pour pas qu'ils tombent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, d'où, et probablement vous connaissez cette autre métaphore qu'il remplace, qui est celle celle de Antonovsky, mais surtout le dessin de Lindstrom et John Strom, qui sont assez, je les ai vus l'affaire en fait en live dans un congrès, donc elle décrivait de quoi il était, lui en arrière était en train de dessiner, voilà. Mais ce que ça dit, si on considère que la santé est un processus dynamique, donc il n'y a plus personne qui est sur le bord de la rivière. Tout le monde est dans la rivière. Nous sommes tous dans la rivière. Le problème, c'est que certains sont dans des eaux beaucoup plus troubles que d'autres. Et donc, l'intervention n'est pas d'empêcher les gens de tomber dans la rivière, c'est de changer la dynamique de la rivière. Donc, de faire en sorte que l'eau, elle est... On peut nager dedans sans se noyer, et que ceux qui ont de la difficulté, on va leur apprendre à nager, et que ceux qui ne peuvent pas nager, on va leur donner la protection nécessaire, et les autres, ben là, on tombe dans le curatif, évidemment. Donc, dans dans cette métaphore-là, on parle vraiment d'une santé dynamique, une adaptation à l'environnement. Et quand on parle d'adaptation à l'environnement, Il y a des adaptations, évidemment, qui sont à court terme, qui peuvent être défavorables. On sait très bien que j'avais une collègue dernièrement qui est médecin et qui était bien peinée d'apprendre que son adolescente de 14 ans commençait à fumer. Et les deux, on en discutait, mais comment elle le sait? Elle a la connaissance. Mais pour moi, et c'est très simpliste comme description, comme explication, mais pour moi, c'est un cas d'adaptation. C'est un cas d'adaptation à un groupe qui est vu comme le groupe dans lequel cette personne-là veut s'intégrer. Et pour s'intégrer dans ce groupe-là, une des clés, c'est de fumer, tout simplement. Donc, en termes d'adaptation, c'est une bonne adaptation si on veut être membre de ce groupe-là. C'est une à moyen terme, c'est une bonne adaptation. Évidemment, à long terme, c'est défavorable. La même chose quand on parle des quartiers où il y a beaucoup de des quartiers défavorisés, où il y a des gens qui vivent vraiment des quartiers où il y a beaucoup de misère humaine. Une des adaptations, évidemment, c'est d'avoir un niveau de pression artérielle qui est plus élevé, parce qu'évidemment, dans un environnement qu'on juge on juge dangereux, on va être prêt à se sauver, on va être prêt à combattre. On veut donc il y a cette flight and en tout cas en anglais, donc c'est lutter et fuir. Flight and flight, exactement. Donc, fight and flight, voilà. Donc, il y a cette réaction-là. À court terme, c'est vrai qu'il faut avoir une pression artérielle plus élevée pour être capable de sauver rapidement. À long terme, on sait très bien que ça a des conséquences négatives. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'environnement pour prévenir qu'il y ait ce genre d'adaptation à l'environnement, des adaptations négatives à l'environnement. Voilà. Donc, promotion de la santé, donc ce que j'ai dit, on doit aller dans les processus donc salutogéniques, donc sortir de la question de la prévention. Je ne dis pas qu'on doit s'en débarrasser de la prévention, évidemment. Moi, ma vision de l'histoire de la santé publique, encore une fois, c'est des blocs qui s'additionnent. On n'en jette pas aux poubelles, disons, il y en a qu'on devrait, mais la plupart, on les garde. Et donc, ce qu'on veut, c'est par contre aller du côté des processus salutogéniques. On veut passer, évidemment, aux déterminants de la santé et on va avoir une perspective socio-écologique pour être capable d'entrer dans ces processus d'adaptation-là. Là, la chose est, on veut aussi aller par milieu parce que l'adaptation, elle se fait dans les milieux de vie. Elle ne se fait pas théoriquement dans un pays ou dans une région, un département. Elle se fait au quotidien dans des milieux de vie précis. Et c'est ça qu'on comprend mal. En fait, on comprend très peu ce qui se passe dans ces milieux de vie-là. Comment les gens gèrent, interagissent avec les ressources que leur milieu leur donne. Donc, milieu qui leur donne un environnement normatif, un environnement social, un environnement physique et tout ça. Donc, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe. Évidemment, si on veut changer l'environnement, il faut aller du côté des politiques publiques comme outil, un des outils les plus puissants pour le moteur de changement. Bon, il y a l'agenda de justice sociale. Là, c'est un peu, j'ai voulu... ici, là, je me répète un peu. J'ai juste, la question de l'évaluation. Donc, évidemment, si on veut comprendre ce qui se passe au niveau, dans les milieux de vie, très difficile d'aller avec des approches qui sont post-structuralistes, des approches très rigides. On doit se diriger vers des approches plus ethnographiques, constructivistes. C'est la seule façon de comprendre vraiment ce qui se passe là. Et évidemment, comme on parle de milieux, des milieux où il se passe des processus extrêmement complexes, j'en suis à un point où je me demande si vraiment les gens de la santé publique, on est vraiment capable d'agir sur les milieux. Je veux dire, on est capable d'agir sur les milieux, mais de programmer le changement. Et d'une façon, c'est tellement complexe qu'à mon avis, il faut plutôt trouver ce qui a fonctionné. Aller dans ces milieux-là et dire, mais comment se fait-il que ce milieu-là, ils aient réussi à changer leur environnement ou qu'ils aient cet environnement-là qui est plus approprié, disons, pour le, qui est plus promoteur de bien-être et de santé. Donc, allez voir ce qui a été fait plutôt que d'y aller avec des gros projets comme les projets américains où on a vu, où on essayait de programmer le changement. Parce que programmer le changement, on sait très bien qu'il y a cette boîte noire où on dit on va transmettre des ressources, ça va passer dans la boîte noire et là, on ne sait plus ce qui arrive avec ça. Je pense qu'il faut aller dans la boîte noire et faire un pas derrière et dire, regardons ce qui a marché et comprendre pourquoi ça a marché, comment c'est arrivé. Et après, diffuser cette innovation. Prochaine, s'il vous plaît. Est-ce que combien de temps me donnez-vous encore? Je prends beaucoup.
Peut-être
7 minutes. 7 minutes, voilà. Donc, évidemment, une des... j'ai essayé de me sortir de la, comment dire, du débat actuel sur le tabagisme en France. Donc, les données que j'ai sont de 2007. Je voulais avoir un article qui avait été publié, non pas sauter sur les nouvelles données où on sait. Donc, ça, au moins, je sais que l'article a été publié, qu'il y a eu un examen des méthodologies et tout ça. Ce que je retiens de là, et ça, c'est important pour la promotion de la santé, c'est que évidemment, on voit les intervalles de confidence là, entre les chômeurs et les ouvriers. On voit qu'il y a beaucoup de... des fois, les différences ne sont même pas significatives. Alors, ce que je veux qu'on retienne plutôt, c'est prendre les chômeurs et ouvriers, les mettre ensemble et les comparer au cadre supérieur. Et là, c'est le scandale. C'est là qu'est vraiment le scandale. Et pour moi, il est clair, et je ne vous apprends rien, vraiment, ce n'est pas le Canadien qui vous arrive avec la bonne nouvelle, je suis extrêmement conscient de ça. Mais pour moi, c'est clair que dans ma façon d'envisager ça, c'est qu'il y a une capacité différenciée d'utiliser les ressources mises à la disposition de la population par la santé publique. Donc, de convertir ces ressources en santé. Par exemple, donc, vous avez d'excellents programmes de prévention du tabagisme et tout ça. Il y a des politiques publiques qui ont été adoptées. Il y a un éventail de ressources qui ont été mises à disponibilité des gens. Mais visiblement, ces ressources-là sont beaucoup plus faciles à convertir en gains chez les cadres supérieurs que chez les autres groupes les autres classes socio-économiques. Donc, il faut absolument qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe au-delà de ça. Prochaine, et là, vous allez me voir venir. Par exemple, si on prend l'action sur l'hypertension, en fait, la santé publique classique, comme vous le savez, on est toujours dans le dépistage, on est toujours dans l'éducation, on est toujours dans l'ingénierie sociale. Mais ce qu'on laisse de côté, évidemment, c'est toute la question du statut social, du stress associé au travail, par exemple, le sentiment de... Si on augmente les niveaux de travail, donc la charge de travail, tout en diminuant le contrôle que les gens ont sur leur travail, on sait très bien qu'on vient de faire exploser le niveau de stress chez les travailleurs. Discrimination et tout ça. Donc, ce qu'on sait très bien maintenant, on le sait, on ne comprend pas pourquoi, mais on le sait, c'est que même si on se débarrassait de tous ces comportements néfastes pour la santé, donc qui sont des facteurs de risque, on aurait quand même un gradient en hypertension à travers les classes sociales. Donc, il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur les déterminants de la santé. Je passe un peu du coq à l'âne. On va donc aller rapidement. Donc, on va la sauter. Donc, l'idée, c'est de passer d'aller plus loin que les stratégies préventives. On va la passer aussi. Voilà. Le problème dans tout ça, évidemment, c'est ce que j'appelle le péril du « elle te plaît, ma sœur ». Donc, au Québec, c'est très populaire, les Astérix aussi. Alors, j'ai été bercé de mon enfance, je les ai lus. Dès que j'ai commencé à apprendre à lire, je comprenais pas du tout le message à cette époque-là. Je ne suis pas sûr que je le comprends complètement pour les questions politiques. Mais la chose est, un des défis qu'on a si on veut travailler sur les déterminants sociaux de la santé, c'est que on va toujours se faire demander « Est-ce qu'elle te plaît, ma sœur? » C'est le problème. Si on veut regarder qu'est-ce qui se passe du côté des écoles, si on veut regarder du côté des milieux de travail, si on veut regarder du côté des municipalités, des milieux de loisirs ou quoi que ce soit, donc toutes sortes de toutes le spectre de milieux auxquels on peut penser, il va toujours avoir ce risque qu'on se fasse demander Mais quelle est votre légitimité? Pourquoi venez-vous vous mêler de quelque chose qui n'est pas de votre sort? Et ça, c'est une barrière majeure. Prochaine. Je vais passer, ça j'ai finalement... Voilà, donc je vais terminer donc, avec ce fameux document et je me remercie en fait les organisateurs de ce colloque, de cette journée, de m'avoir donné l'opportunité de le lire. Donc je l'ai lu attentivement. Et ce qui est clair, quand on regarde dans l'histoire de la santé publique, ce document-là est un retour, est un pas derrière. On recule avec ça. Prochaine diapo. Entre autres, ce qu'on voit, ce qu'on parle, dans le fond, c'est de l'éducation à la santé, formule améliorée, mais en fait, ils la vendent comme la formule améliorée, mais sauf que ce n'est pas de l'éducation à la santé. Parce que la personne, les citoyens qui vont être l'objet de cette éducation à la santé vont être passifs. Donc, il n'y aura pas ce côté démocratique qui dit « nous informons les gens afin de faire des changements, afin compter du nombre des gens qui vont appuyer cette idée de changement, par exemple, d'environnement. » Donc, dans les faits, c'est de l'ingénierie sociale. On parle de techniques élaborées, donc, pour amener les gens à changer leur comportement. Et dans le fond, les gens sont vus comme encore passifs, comme des gens qui sont dominés par leurs pulsions. Et on utilise ces pulsions-là pour amener les changements de comportement. On ne peut pas avoir quelque chose qui est plus l'antithèse de la promotion de la santé, où on parle de participation des populations, et on dit, on devrait minimalement s'asseoir avec les gens et dire, vous, là, est-ce que vous trouvez que c'est un problème? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? On est complètement loin de ça. L'autre chose qui est très choquante, et je vais pas mal à la fin, c'est que quand il parle de prévention dans ce document-là, c'est de la prévention secondaire dont il parle. Il ne parle pas de prévention primaire. Il parle en fait de prévention chez, par exemple, chez les fumeurs. Les non-fumeurs, en oubliant que les fumeurs ont déjà été non-fumeurs. Donc, c'est vraiment une action sur la prévention secondaire. Voilà. Donc, je crois qu'après, je suis à la conclusion avec un peu de chance. Oui, conclusion. Donc, la promotion de la santé, pour moi, n'est pas un hasard historique. En fait, c'est ce que ça nous prend aujourd'hui pour travailler sur les inégalités sociales de santé. Nous ne pouvons pas réduire les inégalités avec des approches strictement préventives. Impossible. Si on travaille sur les facteurs de risque proximaux, comportementaux, nous n'y arriverons pas. C'est pour la simple raison que le gradient social est aussi en lien avec tous ces déterminants. L'autre problème, donc c'est comme une solution pour ça. Donc, le défi, évidemment, c'est « elle te plaît, ma sœur ». C'est aussi le financement de la recherche et action. Encore récemment, j'entendais des gens que parler d'essais contrôlés, randomisés, de vraiment une approche très, très post-structuraliste, alors que on ne peut pas entrer dans la complexité des processus si on s'en tient à ce type, à cette perspective de la science-là. Mais personne ne veut financer ça, malheureusement. L'évaluation des impacts aussi. On dit, on change, par exemple, on améliore la qualité du logement. Ce n'est pas clair combien de temps ça va prendre pour être capable de voir des changements. On va voir des changements, mais est-ce que ça va satisfaire ceux qui mettent l'argent pour ces changements-là? Alors voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors merci infiniment pour votre attention.